Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
You got a nice smile too, miss. I'd like to withdraw my entire account.
Your entire account?
Yes, ma'am, the whole thing.
And your name?
John. John Dillinger.
All right, everybody, hold it right where you are. This is a robbery.
Au sommaire aujourd'hui, une émission où tout est noir. Noir, c'est noir. Eh oui. Une émission consacrée au polar avec une prédilection pour le film noir. Alors, on va parler aujourd'hui, alors on va un peu mentir, on aura quand même un film en couleur, qui est un polar de John Milius qui s'appelle Dillinger, qui est sorti chez Rimini Éditions. Au sujet de Dillinger, on échangera avec Stéphane Chevalier, auteur du livret Wanted Dillinger, qui est disponible dans cette édition collector. Nous échangerons également avec Rania Griffith, qui est directrice de Bubblecom. Nous resterons chez Rimini pour aborder La balade des sans-espoirs de John Cassavetes. Et puis, La balade des sans-espoirs étant un peu du côté des bars embrumés et des clubs de jazz, on ira faire un tour aussi et vous causer de la vie d'un musicien tragique. L'homme au bras d'or d'Otto Preminger, ça c'est disponible chez Elephant Film. Et on restera chez Elephant Film pour parler de trois films noirs. Là on sera dans le pur film noir. Le crime de la semaine et Faux monnayeur, deux films de Jack Arnold. Et Association criminelle de Joseph H. Lewis. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jérémy Coiffman, Victor Lopez, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer polar et film noir, je suis accompagné de mes deux gangsters préférés. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Autre gangster hirsute présent dans ce studio, vous l'aurez deviné, il s'agit de Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédac-chef. Bonjour Thomas.
Bonjour Damien, bonjour Gégé, bonjour à toutes.
Avant de basculer dans le noir, dans le noir et blanc, on va parler d'un réalisateur que l'on aime beaucoup. Alors, tout du moins Thomas et moi, on l'aime beaucoup. C'est John Milius, on a déjà eu l'occasion de dire tout le bien qu'on en pensait. Et John Milius se voit honoré là d'une très belle édition chez Rimini, une très belle édition de Dillinger, son tout premier film, un film de 1973, un film AIP. Et oui, comment est-ce possible que le scénariste le plus coté d'Hollywood à l'époque, qui avait, on le rappelle quand même, travaillé en loose day sur le scénario de l'inspecteur Harry et officiellement sur celui de Magnum Force, qui avait aussi signé le scénario de Jeremiah Johnson et qui voulait en fait, au fond, lui, être réalisateur. Et il y a un certain Lawrence Gordon, un producteur de métier,
qui est présent dans les bonus de cette édition Blu-ray DVD sortie chez Rimini, qui nous explique comment il a réussi à happer Emilius. Il a été le voir, il lui a dit « Mon petit gars, ok, on n'a pas les moyens de te payer, mais par contre, tu as la totale liberté artistique si tu restes dans ton budget de 1 million de dollars pour faire Dillinger. » Alors Emilius a dit « Ok », il a embarqué Warren Oates et il a signé, mon cher Thomas, il a posé la première pierre d'une filmographie courte mais intense et il a commencé à développer la mythologie, j'ai envie de dire, milusienne, ça se dit, ça, voilà. Homme souvent caricaturé comme un vil viriliste. Bon, il faut dire qu'on a déjà parlé de L'Aube rouge dans cette émission. C'est pas son film le plus subtil. Mais John Milius, avec Dillinger, pour la première fois, s'attaque à un mythe américain. Et en fin de compte, John Milius, c'est l'homme des mythes. Hein, il ne traitera dans son cinéma quasiment que de personnages mythiques. Et Dillinger, c'était l'ennemi public numéro un grand personnage taillé pour le cinéma. D'ailleurs, ce n'est pas la première adaptation de Dillinger que celle de John Milius. Mais c'est sans doute avec le film de Michael Mann, Public Enemies, cinématographiquement, mon cher Thomas, l'un des films les plus intéressants sur le sujet.
Pour un premier film, on peut dire que John Milius frappe fort. Hein. Tu citais le film de Michael Mann, là, Public Enemies. Alors c'est un peu l'antithèse de Public Enemies. Hein. Public Enemies, il y a un petit côté emphatique, un petit côté romantique du personnage. Là, il déglingue un peu le mythe. Dillinger, qui a été quand même considéré comme un Robin des Bois de cette époque, etc. Finalement, il dépeint quand même comme un personnage assez violent, tout du moins dans la deuxième partie du film, où là, ça part carrément dans tous les sens. Hein. On dirait qu'ils ont perdu les pédales, là, tous les personnages, et ça tire dans tous les sens, et c'est extrêmement violent. Alors, c'est un film qui rigole pas du tout. Hein. Si vous cherchez une comédie, ne regardez pas un film de John Milius. Voilà. Et donc c'est un film plutôt sec, hein. C'est un film qui est brutal, qui est violent et qui, tout en déglinguant le mythe de John Dillinger, il en impose un autre, hein, c'est celui de Melvin Purvis qui est incarné ici par Ben Johnson vieillissant, qui joue un personnage particulièrement charismatique. Alors quand Melvin Purvis va s'attaquer à un gros méchant, c'est-à-dire à un personnage particulièrement recherché par l'FBI, qui est très dangereux, qui est que personne n'arrive à attraper. Alors ce qu'il fait, c'est il change de veste. Alors je ne sais pas pourquoi il change de veste. Il prend les vestes de ses collaborateurs, il prend un flingue dans chaque main et il prend un cigare, bien sûr qu'on lui allume. Il n'allume pas lui-même. Et donc avec son cigare dans la bouche et un flingue dans chaque main, il pénètre dans l'antre du méchant. Et là, John Milius, il est très fort. Hein, parce que généralement, bon, y a une ou deux scènes où on voit où c'est montré. Mais la première séquence où il fait ça, c'est complètement hors champ. On voit ça du point de vue des policiers qui sont retranchés à l'écart. Donc c'est une petite cabane qui est perdue au milieu de la campagne. Et donc on le voit rentrer. Puis on entend les détonations. Silence. Il y a une pause. Et là, on voit Melvin Purvis sortir avec une femme dans les bras. Alors ça, c'est purement... Là, on est vraiment dans la mythologie. On est dans la construction d'un mythe, alors qu'il en démonte un autre à côté. Donc c'est du pur Milius, hein, la construction du mythe américain. On peut voir quelque part... C'est dans la continuité d'un certain western américain, hein. le mythe de l'ouest américain, du héros américain. Ça rappelle John Wayne quand il prend sa filleule dans les bras dans La prisonnière du désert à la fin, hein. Donc il y a un peu cette image là quelque part.
Il y a aussi cette frustration d'avoir vu Paul Newman jouer dans Jugé hors la loi, l'un de ses scénarios qui a été réalisé par John Huston. Il n'aime pas le film, quoi. Il y a cette frustration de ne pas avoir pu faire le western qu'il voulait faire. De cette frustration naît aussi son envie de mettre en scène. Et ce personnage de Melvin Purvis est à l'origine d'une des plus belles scènes du film, je trouve. Hein. C'est cette scène où il rencontre un enfant pendant qu'il est en train de se faire cirer ses chaussures et qu'il comprend qu'il faut qu'il crée qu'il aille encore plus loin dans la création du mythe et de la légende, donc les J-Men, ça va devenir les J-Men, parce que cet enfant, en fait, n'est pas du tout fasciné. Il lui fait voir son flingue, le gamin est très content de tenir un flingue entre les mains, un flingue qu'il a au préalable déchargé quand même, hein, voilà. Mais le gamin finit par lui dire « Non mais moi, mon idole, c'est Dillinger. » Et donc du coup, ça déclenche comme un déclic chez lui, la scène est très belle, et il termine à la fin par faire un petit signe de main au gamin, qui est en fait ce petit signe de main qui dit « Mais mon petit gars, toi, la légende, bientôt, ça va être moi, ça va plus être Dillinger, tu vas voir. » Et j'adore cette scène. Pour moi, le film, c'est un petit film fauché, en fait, au départ, un million de dollars. C'est une totale réussite, hein, parce que, comme tu le dis, il y a toute la sécheresse, il y a plein d'idées de mise en scène. La première minute du film est filmée du point de vue d'un guichetier dans une banque. En plus, en faisant une sorte de cadre dans le cadre qui ramène au 4 tiers, c'est-à-dire au format originel du cinéma. Et on voit un type qui vient faire un retrait, qui passe derrière une dame. Et qui est ce type? C'est Dillinger. Et Dillinger se met en scène comme un acteur de théâtre. Il fait tout un speech et il lance le hold-up, mais il se met en scène. Et effectivement, à un moment, le film bascule dans une sorte d'incroyable violence. Il y a un basculement dans la violence. Et il y a aussi l'arrivée du personnage de Babyface Nelson, qui est joué par un tout jeune Dreyfus, Richard Dreyfus, qui est tout tout jeune, qui est vraiment génial dans le rôle. Et ce Babyface Nelson, qui est une sorte de chien fou, là, comme ça, c'est le basculement dans autre chose. C'est-à-dire qu'on passe d'un braqueur de banque un peu romantique à des braqueurs de banque sanglants qui laissent des morts derrière eux, quoi. Voilà. Donc, puis il y a quand même quelques scènes assez incroyables. Enfin, on va pas en dire beaucoup plus. On apprend de toute façon beaucoup de choses dans les différents. Dans les différents bonus, hein. Il y a un héros américain avec l'indispensable Samuel Blumenfeld, hein, qui raconte plein de choses passionnantes. Jacques Demange, de positif, plein de choses passionnantes aussi. Olivier Perre, qu'on ne présente plus, hein, le directeur de l'unité cinéma d'Arte France. Il y a plein de choses donc, qui nous sont révélées. On a même, alors j'ai parlé tout à l'heure de Lawrence Gordon, le producteur, et on a même aussi un petit échange avec Barry Devorzon. Barry Devorzon, musicien entre autres également pour Walter Hill et The Warriors de Walter Hill, un autre de mes films cultes. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on aille à la rencontre de Stéphane Chevalier, qui est auteur du livret Wanted Dillinger, qui accompagne donc cette édition sortie chez Rimini, cette édition collector de Dillinger de John Milius. On va tout de suite aller à la rencontre de Stéphane Chevalier. On va également rencontrer Rania Griffith, qui est directrice de Bubblecom et qui est responsable du contenu de éditorial, du livret, enfin voilà, tout ça. On va en parler avec le duo qui s'occupe donc de Bubblecom tout de suite au micro de Culture Prohibée. Bonjour Stéphane Chevalier.
Bonjour.
Alors je suis aujourd'hui en votre compagnie ainsi qu'en compagnie de Rania Griffith. Bonjour Rania Griffith.
Bonjour.
Alors Rania Griffith, je reviendrai vers vous ensuite dans la deuxième partie de l'entretien. Là pour l'instant, je voulais parler avec vous Stéphane Chevalier puisque vous êtes l'auteur du livret Wanted Dillinger.
Exactement.
Qui est le livret qui accompagne cette édition donc, du film Dillinger de John Milius, sorti chez Rimini Édition. Un livret donc consacré à un film qui est le premier film mis en scène par John Milius. Est-ce que vous pouvez nous présenter assez brièvement ce film Dillinger ?
Alors, Dillinger, en fait, c'est toute une histoire. C'est avant tout l'histoire de John Milius. Donc John Milius, pour recontextualiser, c'est le scénariste le mieux payé d'Hollywood début 70. John Milius, c'est avant tout le clan des barbus. C'est donc Lucas, Spielberg, Coppola qui est le mentor, et puis Milius qui est l'artiste. Voilà. Alors, je ne vais pas refaire la jeunesse de tout, mais grosso modo, Milius est un personnage qui rêve de faire carrière dans le cinéma. Je pense, à mes yeux, que c'est le plus talentueux du trio que je viens d'évoquer. Mais par rapport à Dillinger, pour revenir à Dillinger, eh bien, ce film est l'occasion pour John Milius de passer derrière la caméra. Voilà. Donc, Dillinger, pourquoi Dillinger ? Ben, tout simplement pour une histoire très bête, c'est que lorsque Dillinger veut faire un film, les producteurs de l'époque lui disent ben, « Écoute, il y a deux genres qui marchent, c'est la blackfoisation ou les films de gangsters. Donc tu choisis. » Et donc Milius dit ben, « Par rapport à ma philosophie, par rapport à ce que j'aime, je vais choisir Dillinger. Enfin, je vais choisir les héros et les gangsters et il choisit finalement le personnage de Dillinger. »
Alors dans le film, vous remettez en contexte hein, ce tournage, comme vous venez de le faire, vous nous présentez le film, puis vous révélez aussi dans le livret, dès les premières pages, quelque chose qu'on peut voir d'ailleurs à la fin du film, quand on regarde cette édition Blu-ray de Dillinger sortie chez Rimini, c'est la condamnation du film par le patron hein, du FBI, hein, J. Edgar Hoover, une condamnation qui est exprimé littéralement à la fin du film, à la fin du générique.
Exactement. Oui, parce que ce qui est important, c'est que on ne pourrait pas refaire toute l'histoire de l'Amérique, mais disons que la Grande Dépression des années 29-30 se traduit par ce foisonnement de héros, de gangsters héroïsés qui vont jouer les Robins des Bois, je schématise un petit peu, et dont Dillinger sera le plus bel exemple. Ça, c'est le côté romancé. De l'autre côté, c'est aussi l'avènement du FBI, avec la structuration du FBI, et on se retrouve avec Dillinger sur un personnage qui a fait beaucoup de mal, qui a fait beaucoup de dégâts aux yeux du FBI. Donc qu'est-ce qui se passe ? Lorsque J. Edgar Hoover voit en 1973 qu'on va sortir un film, un énième film sur Dillinger, eh bien J. Edgar Hoover dit « Non, non, ça suffit. J'ai suffisamment de flics qui sont morts pour ça. Et donc je refuse catégoriquement qu'on fasse encore une énième édition pour rendre hommage à un salaud. » En gros, c'est ça l'image. Et je peux comprendre, puisque c'est son bébé, c'est ce qu'il a créé. Et faire l'apologie d'un meurtrier pour J. Edgar Hoover, c'est inimaginable.
D'ailleurs, vous parliez à l'instant du côté romancé de la chose, si je peux m'exprimer ainsi. D'ailleurs, vous dites hein, dans le livret, la Wanted Dillinger, que selon vous, le suicide de Melvin Purvis avec l'arme qui aurait servi à tuer Dillinger, puisque Melvin Purvis, c'est Ben Johnson dans le film qui traque donc Warren Oates qui joue Dillinger, et Melvin Purvis, c'est celui qui a tué Dillinger. Vous dites que ça aussi, ce serait de la légende en fait.
Alors. Là, on arrive toujours. C'est toujours très délicat dans ces histoires-là. Effectivement, vous avez ceux qui disent que Melvin Purvis s'est suicidé avec l'arme qu'il aurait utilisée pour tuer Dillinger. Et de l'autre, vous avez ceux qui affirment que c'est une légende purement construite. Et à ce niveau-là, moi, je n'ai pas de traces, de preuves. C'est-à-dire qu'il y a deux tendances, il y a deux écoles, on va résumer comme ça. Et là-dessus, je ne pourrais pas me prononcer. Moi, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, c'est de la légende. Parce que Milius adore les légendes. C'est un conteur, il aime fabriquer des histoires. Donc, il va choisir une histoire qu'il peut romancer. Et puis ensuite, on est quand même dans le grand banditisme des années 30. Donc, une fois de plus, on est sur des légendes qu'on aime fabriquer. Et c'est toujours beaucoup plus beau quand on a des légendes à raconter que quand c'est la réalité. Voilà un petit peu l'approche que je vais défendre par rapport à la légende de Dillinger.
C'est le côté fordien de l'ami Milius, voilà.
Exactement, c'est exactement ça.
Et, d'ailleurs, la critique, c'est, comme c'est indiqué, elle compare le film au Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Et pourtant, Milius, lui, voulait faire l'anti-Bonnie and Clyde. Il porte pas trop le film... Bon, moi, j'adore Milius, hein, mais j'aime aussi beaucoup Arthur Penn et j'aime beaucoup le Bonnie and Clyde. Mais c'est vrai que Milius voulait faire... quelque chose de totalement différent. Il voulait faire l'inverse du Bonnie and Clyde d'Arthur Penn.
Exactement. Alors, j'aime beaucoup Arthur Penn de mon côté également, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Bonnie and Clyde, ce sont des fous furieux, ce sont des sauvages, ce sont des personnages qui ne sont absolument pas héroïques. Et pour Milius, comme il le dit d'ailleurs dans la préface qu'il nous avait fait sur Le Lion et le Vent, pour Milius, il a le code du guerrier dans son... Dans son cœur. Donc pour lui, c'est le code du Bushido, c'est on est droit, on se bat pour un idéal et on a des valeurs. Eh bien, Dillinger, c'est un personnage en termes de gangster qui a des valeurs, qui va détrousser les riches pour donner aux pauvres. On retrouve le schéma classique de Robin des Bois. C'est d'ailleurs c'est également le personnage de Pretty Boy Floyd qui est qualifié qui fait partie de la bande de Dillinger et qui est qualifié également du Robin des Bois moderne à l'époque. Donc on est vraiment sur un univers où le héros, qu'il soit gangster ou qu'il soit chevalier, doit avoir des valeurs et doit se battre pour un idéal. Bonnie and Clyde sont des fous furieux qui n'hésitent pas à battre tout et n'importe quoi et qui sont complètement incontrôlables. Donc pour Milius, Bonnie and Clyde sont des anti-héros dont on ne doit absolument pas faire l'apologie. Voilà.
D'ailleurs, Stéphane Chevalier, dans le livret, là, vous avez aussi été à la rencontre de Steve Canali. Alors cet acteur, beaucoup de monde le connaît pour un rôle muet, en fait, pour être le barbier d'Henri Fonda dans Mon nom est personne. Mais c'était aussi un collaborateur régulier de John Milius. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conditions de cet entretien, comment vous avez réussi à le rencontrer et puis comment s'est passée cette rencontre? Parce qu'il aborde beaucoup de choses dans le livret.
Mais c'est une très très belle rencontre. Enfin, je pense que c'est une des plus belles rencontres que j'ai vécues ces dernières années. Steve Canali, alors il faut savoir que Milius, pour reprendre votre expression, le côté fordien, John Ford avait ses collaborateurs, il avait son clan d'Irlandais. Mais Milius, c'est pareil, il avait ses copains. Et pour vous dire comme quoi l'histoire est très belle, j'étais à Bucarest la semaine dernière pour rencontrer Darrel Fetty, qui est un proche du clan de Milius et qui m'a invité sur un tournage en Roumanie d'une série américaine. Et parce que j'avais rendu hommage à Milius à travers deux bouquins et à travers deux livrets, il tenait à me remercier et à me dire « on reste en contact ». Donc il y a le clan Milius, et donc dans le clan Milius, les gens restent très proches. Et Steve Canali, comment je l'ai rencontré? C'est tout bête, moi je suis un peu comme un chien de chasse, quand je veux trouver une information, quand je veux trouver quelque chose, je vais fouiller, je vais gratter partout, et puis heureusement aujourd'hui les réseaux sociaux nous aident un peu, donc j'ai mis un peu de temps quand même, j'ai mis 3-4 mois, j'ai réussi à trouver un fan club qui était en contact avec Steve Canali et qui m'ont mis en relation avec Steve Canali. Et il a accepté donc de rester en relation avec moi, enfin de prendre contact avec moi. Et la plus belle histoire, c'est que contrairement aux habitudes, Steve Canali m'a dit « je suis à ta disposition, tu me poses les questions que tu veux et puis s'il y a besoin, je répondrai ». Donc pendant 15 jours, on a échangé soir après soir et il prenait le temps de faire les réponses que vous pouvez retrouver en partie parce que j'ai plus de 30 pages d'interview où Steve Canali se confie, nous raconte son histoire qui pour moi, à mes yeux, est un très beau témoignage en tout cas de l'histoire du cinéma et de la télévision américaine des années 70 et 80.
Oui, parce que c'était aussi un des héros récurrents du feuilleton Dallas. Faut le dire.
Et il le dit, ce qui est fantastique, c'est que beaucoup de ses copains crevaient de faim à l'époque et travaillaient pour la série télévisée. C'était l'occasion de payer son loyer ou payer des choses comme ça. Donc du coup, lui, quand il a travaillé pour Dallas, il m'a répondu, un truc tout bête, ce cachet m'a permis de m'acheter ma baraque. Voilà, on reste épis sur terre, on reste rationnel. Voilà. Donc c'est en ça que c'est un personnage que je trouve fascinant, un mec humble qui s'est resté à sa place. Quoi. Et pour terminer, je parlerai de Mon nom et personne, puisque effectivement il apparaît dans Mon nom et personne. Et comme il le raconte, c'est très drôle, il dit « je suis allé bosser avec le grand Henri Fonda, et puis finalement j'ai fait un rôle muet, mais j'ai découvert une production internationale, et avec les productions internationales, les gros cachets qui vont avec. » Voilà.
Alors, ça fait partie des choses qu'on peut lire donc, dans ce livret Wanted Dillinger, donc, qui accompagne cette édition Rimini du film Dillinger, hein, donc de John Milius. Et derrière tout cela, il y a une maison d'édition qui s'appelle Bubblecom, pour laquelle vous travaillez, dans laquelle également travaille Rania Griffith, qui la dirige. Et donc, j'aurais voulu, alors là je m'adresse à Rania Griffith qui vous accompagne, j'aurais voulu savoir qu'elle nous présente un peu Bubblecom et le travail que fait Bubblecom.
En fait, Bubblecom, c'est l'histoire de deux passionnés de cinéma et d'édition à la fois, qui se sont dit, à force, et qui viennent aussi du domaine de la communication, et à force de travailler pour les autres, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, si on faisait aussi les choses pour nous, puisque nous sommes passionnés par le cinéma et l'écriture.
Quel est, par exemple, votre travail sur une édition comme celle-ci, comme ce Dillinger, sur laquelle vous êtes en charge de la direction artistique?
Au niveau de Dillinger, Stéphane aurait plus échanger là-dessus que moi, parce que finalement on a deux manières de travailler différentes en fonction des projets, c'est-à-dire qu'on met on utilise en fait nos méthodes dans ce qu'on a appris dans la communication. On met un project manager sur un projet qui va gérer de A à Z, que ce soit la ligne éditoriale, la ligne graphique, les icônes, les photographies, si par exemple il doit y avoir des bonus vidéo qui s'y rajoutent, donc toute l'imagerie qui est derrière, etc., les questions, voilà. Donc, et après, ça part en production, et donc moi je suis en charge pour le coup du volet production. À l'inverse, par exemple, sur d'autres projets, dans ce cas de figure-là, je peux par exemple être la project manager, gérer tout de A à Z et donner la production, dispatcher la production en fonction des spécialités de chacun.
Pour Dillinger, Rania, le livret, c'est elle qui l'a fait de A à Z.
Voilà.
En termes de maquettage, de mise en page.
D'accord.
Donc voilà, en termes de ligne éditoriale, la touche qu'elle peut avoir aussi. Ce côté mise en page, le design, les photos mises en valeur, les petites phrases mises en erzeg.
Quand on dit que c'est un beau coffret ou un beau livret, ou un beau bouquin, c'est moi.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Alors les amis, après avoir longuement abordé cette édition, Rimini du Dillinger de John Milius, on va rester chez Rimini pour un film tout en clair-obscur, tout en noir et blanc. Un film avec Bobby Darin, Stella Stevens, Everett Chambers, et surtout un film de John Cassavetes, un film méconnu de John Cassavetes, qui est une sorte de parenthèse dans sa carrière. Il a tourné deux films de studio, en fait. Là, en l'occurrence, c'est la Paramount. Pourquoi ? Parce que après Shadows, qui est un succès
surprise pour les responsables de studio. Personne ne misait un copec sur ce metteur en scène qui filme des gens dont on dirait qu'ils sont en train d'improviser, dans une ambiance en noir et blanc, un peu particulière, un peu singulière. On décide de lui filer des gros films. Alors il décide, lui, de faire un film autour de l'univers des... Alors on n'est pas vraiment dans le film noir, on est dans un mélange dans l'esthétique du film noir, mais dans un drame en fait. Hein. Et surtout un drame sur la condition féminine, ce qui est quelque chose en fin de compte d'assez rarement abordé dans le cinéma de l'époque, mais souvent dans le cinéma de John Cassavetes. Et là en l'occurrence, c'est dans la personne de Stella Stevens, actrice qui se révèle d'ailleurs excellente hein, dans le film, hein, qui au départ... Les studios avaient un peu embauché, ben, comme pour Kim Novak, d'ailleurs, dont on parlera dans le film suivant, pour un peu le côté Marilyn de cette belle blonde. Et en fait, elle va se révéler être une excellente actrice. Et là, en fait, elle interprète Jess Polanski, qui est une chanteuse accompagnée par Benny, qui est son impresario, qui est aussi l'impresario d'un certain Ghost Wakefield, qui dirige un quintet de jazz, qui n'arrive pas à rencontrer le succès. Et il va y avoir une sorte comme ça de trio amoureux qui va se jouer autour de cette femme pour laquelle on va décider de composer une chanson. Et ça va donner un film... assez singulier, assez dramatique en fin de compte, qui est présenté dans une copie exceptionnelle. Hein. Franchement, la qualité de la copie, j'ai rarement vu un noir et blanc aussi bien exploité, sauf peut-être pour un autre film dont on va parler en fin d'émission. Et ça donne un film assez singulier pour moi dans la filmographie de John Cassavetes, peut-être parce que plus sage, moins improvisé, moins fou que d'autres films de Cassavetes, même si on retrouve les thématiques hein, classiques, c'est-à-dire la relation femme-homme, l'alcool, la musique jazz, évidemment, tous ces thèmes qu'on retrouve dans une grande partie de sa filmographie.
Et il y a une séquence dans le film où ils sont en train d'enregistrer des morceaux parce qu'ils ont trouvé un producteur. Et je me demande, c'est donc le deuxième film de Cassavetes où il y a un grand studio derrière qui lui impose des choses. On soupçonne qu'il lui a imposé aussi une fin plutôt optimiste, etc. Et je me demandais si cette séquence n'était pas un discours de Cassavetes sur Hollywood. Parce qu'il y a le producteur qui lui dit, parce que Ghost, c'est sa propre composition qu'il a écrite pour cette jeune femme, etc. Et le producteur qui lui dit, ouais, mais non, c'est nul, ça va pas rapporter d'argent, il faut que ça rapporte de l'argent, etc., etc. Et il y a le mec, l'ingénieur du son, qui a l'air de dire que ce sont des blaireaux, ce groupe-là, etc. Donc je me demande si dans cette séquence, il n'y a pas un propos de John Cassavetes à propos du système hollywoodien.
Rien que pour la rareté, je vous conseille vivement ce film, pour la beauté plastique de ce film, pour la performance de Stella Stevens. Ça fait déjà beaucoup de bonnes raisons pour voir ce film, que donc je vous conseille vivement. Ça s'appelle « La balade des sans-espoir » et c'est disponible chez Rimini Éditions. On va rester dans le domaine de la musique, enfin en tout cas avec un film qui entretient des liens plus ou moins étroits avec la musique, des liens aussi plus ou moins étroits avec le film noir. Un film édité par Elephant Film, après deux films sortis chez Rimini, on file chez Elephant Film. Et je veux vous parler d'un film d'Otto Preminger, un film de 55 qui s'appelle « L'homme au bras d'or ». Alors qui, c'est vrai, peut-être classé, pour certains, il le classe un peu dans le film noir, parce qu'il y a, des tables de poker, des barres de jeux clandestins, il y a la drogue, parce que c'est au centre du film, évidemment, on va y revenir. Et puis, il y a, il y a une femme fatale, et puis il y a un assassinat, voilà. Donc, il y a beaucoup d'éléments... en fait, du film noir, dans ce film qui, pour moi, est plutôt un drame. Hein. Un drame qui est celui vécu par le personnage de Frank Sinatra. Frank Sinatra qui revient de cure de désintox et qui a décroché définitivement de la drogue. Tout du moins, c'est ce qu'il croit. Et il est l'homme au bras d'or, parce que dans sa cure de désintox, il a appris à jouer de la batterie, et il s'est fait surnommer l'homme au bras d'or. Donc il décide de devenir musicien, ce qui, paraît-il, c'est un batteur exceptionnel. Voilà. Et évidemment, ça n'a pas vraiment se passer comme il l'avait prévu. Il va renouer avec son environnement toxique,
à savoir sa femme, qu'il appelle Zosh, qui est jouée par Eleanor Parker, qui est un peu le défaut du film, hein, qu'un jeu un peu surjoué. Je suis d'accord avec Eddie Moine, qui le dit dans les bonus du Blu-ray, je suis assez d'accord là-dessus, elle surjoue un peu. Il va retrouver, sinon par contre, toute la faune et la flore de gens plus ou moins bien, mais quand même son ancien dealer, quand même tous ces organisateurs de jeux de cartes qui sont alors totalement interdits, puisqu'il y a des jeux d'argent, évidemment. Et il va, renouer, malheureusement, avec la drogue, puisque l'homme au bras d'or, c'est aussi l'homme qui s'enfile dans le bras des seringues et qui, évidemment, n'arrive pas, tant qu'il ne partira pas de cet environnement, il n'arrivera pas à se sortir de la drogue. Alors, le film décrit comme ça le parcours de Frank Sinatra, qui s'appelle aussi Frank dans le film, hein, donc Frankie Machine. C'est un des premiers rôles de Sinatra pour le cinéma. Rôle important, rôle qui ne lui amènera pas l'Oscar. Il en voudra longtemps à Hollywood, qui lui donnera l'Oscar pour un autre film. Il dit, ils m'ont donné l'Oscar à contre-temps. Je le méritais beaucoup plus pour l'homme au bras d'or. En fait, le film a ceci d'extraordinaire. C'est un film d'Otto Preminger, donc évidemment, c'est immensément bien réalisé. Ça démarre par un plan séquence démentiel, filmé à la grue, qui accompagne le retour de Sinatra pour un travelling latéral, avant de basculer à l'intérieur du bar, qui est le franchissement, évidemment, du Rubicon. C'est le miroir que l'on franchit, comme dans Alice au Pays des Merveilles, pour pénétrer dans le monde, dans ce monde qui est le monde du stupre, qui est le monde de la tentation, voilà. Et puis, au milieu de tout cela, il y a cet ange, interprété par Kim Novak, la belle Kim Novak, la belle blonde, qui est un personnage pur, qui est un personnage intègre, et qui est la seule personne, en fait, qui veut réellement essayer de le faire décrocher, sans qu'ils aient en plus de relations ensemble, ce n'est pas sa maîtresse, voilà. Ce que croit sa femme, par contre, elle. Mais ce n'est pas sa maîtresse. Sa femme qui est en fauteuil roulant, qui lui fait porter le poids d'un... Enfin, ils conduisaient sous, ils ont eu un accident de voiture, elle a fini infirme. Sauf qu'on découvre très vite qu'elle n'est pas infirme, qu'elle est totalement valide, mais qu'elle lui fait croire qu'elle est toujours infirme, elle le fait croire à tout le monde. Pour pouvoir le faire culpabiliser, le problème, c'est que cette culpabilité l'amène, lui, à être le toxicomane qu'il est. Voilà, donc c'est un film assez extraordinaire, dans le sens c'est le premier film à traiter ouvertement de la drogue. Hein, c'est un film qui s'est passé des autorisations, en fait, parce qu'on ne voulait pas le sortir au cinéma. Personne n'en voulait. Et donc, Preminger a décidé de le sortir quand même. Et aux salles qui lui faisaient des histoires, il était prêt à aller lui-même... porter la négociation et à expliquer, voilà, si vous, parce qu'à l'époque c'était un réalisateur en vogue, hein, et si vous voulez pas de mon film, vous n'aurez plus mes films dans vos salles et tout ça, enfin bref. Donc du coup, le film a pu sortir. Et alors, le film reste un très grand film, un très grand classique, sur un sujet très dur. La mise en scène est extraordinaire. Le moment où Sinatra se fait un fixe et où la caméra termine par un gros plan sur ses yeux est absolument sensationnel. Hein. On est vraiment dans, comment dire, du grand, grand cinéma. Alors bien sûr, c'est un film de studio. Hein. C'est un film qui voit pas... les acteurs n'ont pas vu... n'ont pas respiré à l'air libre de tout le film. Hein. C'est un film qui se passe en studio. Donc ça, on accepte ou pas le principe. Hein. Et puis, c'est aussi la seule limite du film, j'ai envie de dire. Pour le reste, c'est un film qui reste passionnant, qui a franchement pas pris une ride dans ce qu'il raconte et qui mérite grandement sa réputation de classique de l'histoire du cinéma. D'autant plus que... on y découvre le travail, évidemment, de Saul Bass, travail qu'il réalise là avec Otto Preminger. C'est un collaborateur attitré, Saul Bass, de Preminger et d'Hitchcock, entre autres. Hein, mais disons qu'il est plus connu pour ses deux collaborations. Et le générique de début est absolument sensationnel, composé de barres qui tombent comme ça, avec des barres qui forment un bras. Enfin, c'est extraordinaire. L'affiche est identique. Personne ne voulait de l'affiche non plus à l'époque, il faut le savoir. Hein. Tout le monde trouvait ça moche, en fait, ce que faisait Saul Bass. Aujourd'hui, tout le monde crie au génie et Saul Bass
était vénéré, mais à l'époque, c'était pas accepté de la sorte. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous conseille vivement ce film, d'autant plus que atout supplémentaire, c'est aussi les premiers essais d'Elmer Bernstein dans le jazz pour une BO, et évidemment Bernstein, donc évidemment, il s'en sort formidablement bien. Écoutez Culture Prohibée, spécial polar et film noir. On va quitter maintenant cette ambiance proche du film noir et on va se diriger, les amis, vers réellement, là, ce coup-ci, des purs films noirs. Et on va commencer par deux films de Jack Arnold. Le crime de la semaine, pour commencer, The Glass Web, un film de 1953, qui était un film d'ailleurs réalisé en relief à l'époque, hein, qui était en 3D, qui est un film avec Edward J. Robinson. Edward J. Robinson, qui est une sorte de type un peu frustré, qui travaille pour la télévision, tandis que pendant ce temps-là, il est un peu pris pour un con, en fait. C'est un maniaque du détail. Il est un peu pris pour un idiot par les gens qui l'entourent parce qu'il est épuisant, il est hyper cassant et tout, donc les gens en ont marre de lui. Et pendant ce temps-là, il y a un scénariste, lui, qui s'appelle Don Newell, qui est interprété par John Forsythe. Et ce scénariste, il est tombé sous l'emprise de Paula Ragnier, interprétée par Kathleen Hughes, qui est en fait une sacrée manipulatrice et qui, en fait, se sert d'un pyjama pour le faire chanter, hein, pour le dénoncer à sa femme. En l'échange, elle veut les rôles principaux du crime de la semaine. Qu'est-ce que c'est que le crime de la semaine ? C'est une émission de télévision que Don scénarise et qui met en scène chaque semaine un crime célèbre, un vrai fait divers, hein, comme quoi on n'a rien inventé aujourd'hui, hein, ça existait déjà à l'époque. Et Don est donc le collègue d'Edward J. Robinson, et entre ces deux-là, il va se nouer quelque chose de malsain, parce que eh bien, cette maîtresse, cette jeune femme qui fait tourner les têtes de ces deux hommes, elle va être retrouvée assassinée, et à partir de là va se dérouler une intrigue au suspense absolument insoutenable, les amis.
Alors c'est un Jack Arnold qui m'a franchement épaté, hein, parce que je trouve pas que Jack Arnold soit un grand réalisateur, même s'il a réalisé quelques classiques, mais il m'a franchement épaté. Déjà le premier plan, ça commence par un meurtre, hein, on voit un homme abattre une femme de dos, et puis la caméra recule, 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 puis on se rend compte qu'on est en fait dans un studio de télévision. Donc finalement, il pose les bases de son film, c'est un film sur les faux-semblants. Hein, déjà ça, et c'est un film aussi qui propose aussi, je trouve qu'il y a des idées de mise en scène vraiment chouettes, comme toute cette séquence où le personnage découvre sa maîtresse assassinée en fait. Donc nous en plus, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a fait ou pas, il y a un doute, il y a une ambiguïté, le réalisateur laisse planer une ambiguïté là-dessus, mais il y a une idée qui est vraiment absolument géniale, c'est que il joue sur la musique. Il y a un disque qui tourne sans arrêt, parce que quand elle a été assassinée, elle avait mis un disque, et le disque n'arrête pas de tourner. Donc, et c'est une chouette idée de mise en scène, cette façon de jouer sur le son, qui aura un sens quelque part aussi dans le film, car la musique a un rôle particulier dans ce qui va se passer par la suite. Donc je trouve que c'est un Jack Arnold. D'habitude, je trouve que Jack Arnold, c'est plutôt bavard. Hein, c'est plutôt bavard et qui se repose un peu trop sur le scénario que sur la mise en scène. Mais c'est un Jack Arnold qui est plutôt malin, qui est très coquin quelque part. Hein. Il y a cette idée du faux coupable hein, qui essaye de s'innocenter comme il peut et qui se retrouve complètement piégé par des indices qu'il a laissés malencontreusement sur la scène du crime. Et donc c'est plutôt un Jack Arnold plutôt qui m'a épaté, qui m'a surpris.
En termes d'idées de mise en scène, il y a quand même celui qu'on peut considérer comme le héros qui laisse tomber une étiquette avec son nom. En termes de mise en scène, c'est génial parce qu'il y a tous les flics qui viennent enquêter sur la scène de crime. Donc c'est le MacGuffin, hein, l'étiquette. Hein. Marche. Il y a un chewing-gum sous la godasse. On marchait dans un chewing-gum et l'étiquette se colle sous les pieds des flics, un par un qui se débarrasse sans cesse de l'étiquette. C'est génial parce qu'en fait, ça crée une angoisse pas possible chez ce personnage, alors que les flics, en fait, passent un peu à côté de cet indice. C'est assez drôle, c'est assez fun et c'est vrai, totalement hitchcockien.
Oui, c'est immédiatement quelque chose qui ressort assez vite des sensations du film, c'est qu'on retrouve finalement cette tension qui perdure tout au long du film, qu'on peut retrouver dans beaucoup de Hitchcock, y compris dans les Hitchcock présentes. Tu as tout l'aspect captivant du trailer, extrêmement efficace, notamment par le fait qu'on entend les pensées parfois en voix off de Don Newell, ou qu'on a des flashbacks qui permettent de nous introduire quelques éléments. Je savais pas que du coup qu'il y avait eu tout le travail 3D en fait pour que le film soit visible avec, mais ça paraît logique parce que lorsqu'on voit le film justement après qu'il ait essayé après qu'il ait vu le meurtre qui soit parti, il se retrouve dans une scène où en fait la caméra enchaîne des mouvements, notamment une voiture qui fonce dessus, lui l'esquive mais elle va tout droit vers le spectateur, pareil avec l'arrosoir. Non, c'est un film qui a une histoire virevoltante et innovante au fur et à mesure, qui est poussée par un montage dynamique. L'introduction est absolument géniale, un true crime avant l'heure. Au final, on nous montre le fonctionnement d'un studio où on découvre que c'est un studio, à côté on nous présente la pub, comment est-ce qu'on filme les deux, et au final on ne sait pas vraiment vers où on s'oriente jusqu'à ce qu'arrive finalement le crime qui est monté au fur et à mesure en avance par cette femme fatale assez particulière, où finalement les trois protagonistes, enfin les deux protagonistes masculins principaux plus un troisième qui est invité, tous les trois ont plus ou moins une raison de la tuer, ce qui augmente au final la dose du mystère. Truc particulier que j'ai découvert après coup, c'est que c'était l'adaptation d'un roman que j'ai pas lu qui s'appelle Vous l'aurez voulu, ou Spin the Glass Web de Max Ehrlich. Mais oui, Jack Arnold offre un film que je trouve totalement épatant et absolument passionnant.
Autre film de Jack Arnold qui est sorti, plus mineur, celui-là, un film de 56, s'appelle Faux Monnayeur, qui est également sorti chez Elephant Film. Enfin, on peut dire que les deux font la paire. Hein. C'est l'histoire d'un condamné de droit commun qui est engagé dans l'armée d'occupation américaine en Allemagne, et puis qui est compagnon de régiment d'un homme qui est abattu, un homme qui collaborait en fait à une histoire de fausse monnaie.
voilà, de fausse monnaie particulièrement bien faite. Et donc la police fédérale décide de faire appel à ce condamné de droit commun, que son casier judiciaire soit vierge, hein, que son passé ne lui colle plus au basque. Mais en échange, il doit travailler avec la police fédérale et faire tomber ce trafic de fausse monnaie. Ce qu'on découvre assez vite, c'est que ce Johnny Salvo, hein, qui doit donc travailler avec la police fédérale, est le fils du commissaire Conrad, avec lequel donc il doit tenter de se rabibocher, parce que c'est aussi une histoire de relation père-fils, fils-père. Alors, on retrouve, c'est beaucoup plus mineur que notre Jack Arnold dont on vient de parler, c'est bien troussé, c'est bien efficace, mais disons que, comparé à l'autre, c'est beaucoup moins bien. C'est un film noir, bon, le scénario est un peu tiré par les cheveux, mais on retrouve des thématiques propres à Jack Arnold. Par exemple, on est dans les faux-semblants. Hein, on disait à l'instant, Thomas rappelait cette scène de meurtre au début du film précédent, là, le crime de la semaine. Une scène de meurtre au début, la caméra recule. On se rend compte qu'on n'est pas face à un vrai crime, mais qu'on assiste au tournage d'une fiction. Bon, bah là, au début, on voit des gens de l'armée. Ce soldat rentre. Et il rentre à la prison de Saint-Quentin. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc on est pareil, on est sur cette idée des faux-semblants. Il y a, entre guillemets, aussi le sort qui est fait à des immigrés, qui est abordé en filigrane, qui est une des thématiques qui revient très souvent chez Jack Arnold, qui est un défenseur des oppressés, des immigrés. On a vu d'autres films de Jack Arnold où c'était vraiment au centre du film. Le film est une bonne série B, ça se laisse regarder, mais disons qu'on n'est pas du tout dans un film du niveau du crime de la semaine, mais que c'est un film qui vient compléter, on va dire, cette salve de films noirs édités par Elephant Film. C'est un petit film efficace, mais dans la sélection qui nous est proposée, c'est en deçà du crime de la semaine et c'est en deçà du troisième film de cette sélection, excusez du peu, The Big Combo, un film de Joseph H. Lewis. Joseph H. Lewis, c'est l'homme qui a réalisé Gun Crazy, L'Emprise du Crime, grand, grand, grand film. Et là, The Big Combo, son titre français, donc Association Criminelle, sort chez Elephant Film dans une copie, mais sublime. On parlait tout à l'heure de la copie du film de Cassavetes. Là, la copie, elle est sublime en Blu-ray. Elle est magnifique. Et Joseph H. Lewis, c'est intéressant qu'ils aient sorti le Joseph H. Lewis en même temps que les Jack Arnold, parce que c'est un peu deux réalisateurs assez proches, dans le sens où ces deux réalisateurs étiquetés faiseurs de série B qui enchaînaient les tournages à toute vitesse et dont sont sorties quelques pépites. Tu disais, Thomas, tout à l'heure, je ne suis pas un gros fan de Jack Arnold, mais il y a quelques films qu'il a fait qui sont réellement des classiques. Eh bien, c'est pareil pour Joseph H. Lewis, en fait. C'est un film, un réalisateur qui a enchaîné les séries B, qui a enchaîné les tout petits budgets, qui a fait plein de films. Et puis, au milieu de tout ça, il y a deux films exceptionnels, qui sont donc Gun Crazy, qu'on connaît bien, hein, voilà, et The Big Combo, donc Association Criminelle, qui est ce film qui raconte l'histoire d'un lieutenant de police incarné par l'excellent Cornel Wilde, qui est confronté à un méchant qui s'appelle Richard Conte, un gangster de la pire espèce, mais un gangster intouchable, intouchable. Il n'arrive pas à le coincer aux yeux de la loi, il est imprenable. Et ce qui est intéressant aussi, parce que c'est un film très cru sur la sexualité, et ça c'est assez incroyable, ce policier s'entête aussi parce qu'il est attiré par Suzanne Lowell, la maîtresse malheureuse de ce Mr. Brown, qui dans la vraie vie, Gene Wallace, est la femme de Cornel Wilde. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a fait jouer dans ses films, ce film qu'il produit également. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait rappeler à l'ordre par sa hiérarchie qui lui dit « Mon gars, tu fais une enquête depuis des années, tu as dépensé des dizaines de milliers de dollars, enfin je ne sais plus quelle somme exactement, enfin une somme assez faramineuse. Mais qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu fais ça par amour pour cette femme ?» Mais non, enfin mais oui, bien sûr, il fait ça par amour pour cette femme, mais il fait ça aussi pour vraiment coincer ce criminel. Et est-ce qu'il va réussir à mener cette mission à bien? Est-ce que Richard Conte, l'excellent Richard Conte, fielleux, assez dégueulasse, un vrai sale type, va réussir à avoir gain de cause à la fin ? Est-ce que ces hommes de main, carrément un couple homosexuel, quoi, voilà, qui est un truc qu'on n'abordait pas du tout au cinéma à l'époque, ils vivent ensemble, ils couchent ensemble, ils sont tout le temps ensemble, c'est clairement un couple homosexuel. Lee Van Cleef et Earl Holliman. Earl Holliman, il fait Mingo, un benet. Lee Van Cleef, lui, c'est l'homme, le dur à cuire, Fante. Voilà. Et le film est assez génial. Hein. La crudité sexuelle de ce film est incroyable, moi, je trouve, pour un film de 55, y compris dans la relation qu'entretient le flic avec son officiel, une stripteaseuse, relation très ambiguë où il la traite presque comme de la merde. Hein. Sauf qu'il va se passer quelque chose de tragique qui va lui faire prendre conscience qu'il est un peu salopard sur les bords. Et puis, association criminelle, eh bien... Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est aussi un travail extraordinaire de ce directeur de la photo extraordinaire qui est John Alton, qui avec une seule source de lumière, un lampadaire, va vous créer des images absolument démentes. Le final où on éclaire le méchant avec un phare de bagnole, c'est juste démentiel. L'intro du film où on voit, Suzanne Lowell, donc interprétée par Gene Wallace, courir comme ça dans la rue, pourchassé par ces deux hommes, donc par Lee Van Cleef et son acolyte, dans une sorte de clair-obscur, proche de l'expressionnisme allemand, du meilleur de l'expressionnisme allemand. C'est incroyable. C'est une véritable démonstration de John Alton. Et puis, il y a le savoir-faire de Joseph H. Lewis, qui, quand il a un bon scénario, un bon directeur de la photo, lui... Qu'est-ce qu'il aime, Joseph H. Lewis ? C'est un réalisateur de série B, comme Don Siegel, comme Jack Arnold, dont on parlait à l'instant. Quand ils ont un bon scénar, quand ils ont des bons acteurs, quand ils ont tout ce qu'il faut sous la main, eux, c'est des bons faiseurs. Donc eux, ils n'aiment pas frimer, ils n'aiment pas en rajouter dans la mise en scène. Tout est filmé au cordeau, tout est sec, tout est crédible. Ce film, moi, je le trouve ultra violent pour un film de l'époque. C'est ultra sexuel, ultra violent, ultra novateur dans l'esthétique. Pour moi, c'est un des derniers films noirs. Pour moi, avec le Aldrich en quatrième vitesse, c'est peut-être même meilleur pour moi qu'en quatrième vitesse d'Aldrich. À voir, à revoir, faudrait que je revoie et que je compare les deux. Mais pour moi, c'est un immense film, Association criminelle.
Oui, tu as cité Don Siegel, mais moi je citerais aussi Anthony Mann, ne serait-ce que par la parenté qu'ils entretiennent avec, pour avoir travaillé tous les deux avec John Alton. Mais c'est effectivement un film plein d'idées de mise en scène, et puis avec une violence très crue, notamment il y a une séquence de torture au sonotone à un moment, qui est quand même extraordinaire. Et il y a plein de séquences pas mal. Hein. Il y a aussi un travail sur le hors-champ, des gens qui se font fusiller au hors-champ, c'est vraiment chouette. Et il y a aussi une autre grande idée de mise en scène, toujours avec le sonotone, il joue sur le son, c'est extraordinaire. Mais ce film est extraordinaire pour l'époque. C'est incroyablement violent, quoi.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.